Bonsoir. Dans un communiqué publié ce lundi, la Conférence épiscopale nationale du Congo demande au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. La CENCO l'a signifié à l'issue de son assemblée générale tenue le week-end dernier à Kinshasa. Dans ce même message, les évêques recommandent notamment au Parlement d'adopter avec diligence les lois justes qui garantissent la tenue des élections. Et au gouvernement de publier avant fin 2017 le plan de décaissement des fonds destinés à la CENI en toute transparence. Quelle analyse faire de cette déclaration? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Monseigneur Fulgence Moteba. Bonsoir, Monseigneur.
Bonsoir.
Vous êtes ancien secrétaire général de la CENCO et membre du comité permanent en qualité de président du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir Alain Yung.
Vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Il est en ligne, Monsieur André Alain Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire, la Conférence épiscopale nationale du Congo demande au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Déclaration faite ce lundi à travers un communiqué intitulé « Le peuple congolais crie sa souffrance, allons vite aux élections » publiées à l'issue de son assemblée générale tenue du 22 au 24 novembre. Plus de détails avec vous, Dona Madimba.
Outre la demande faite au président Joseph Kabila de renoncer à un troisième mandat, la CENCO demande au Parlement, par exemple, de vite adopter les lois qui garantissent la tenue des élections, de contrôler l'exécution du budget affecté à ces élections, mais également de rejeter purement et simplement toute initiative de révision éventuelle de la Constitution. Au gouvernement, les dignitaires catholiques demandent de sécuriser les élections, publier avant 2018 un plan de décaissement du budget de ces élections, mais aussi favoriser la décrispation du climat politique. À la communauté internationale, la CENCO attend un soutien moral, diplomatique et financier. À la CENI, les évêques demandent des assurances de neutralité. Et enfin, à la population, la CENI recommande vigilance et, si nécessaire, des actions de pression. Mais tout cela pacifiquement et sans violence.
Merci Dona Madimba. Monseigneur Fulgence Moteba, sous quel signe les évêques placent-ils cette déclaration, l'amertume, la colère ou l'exaspération?
Oh non, mais c'est une interpellation comme ils le font depuis plusieurs années. Les évêques en tant que pasteurs et en tant que Congolais ont le droit de s'exprimer sur la situation sociopolitique de notre pays. Et ils ont des raisons supplémentaires dans la mesure où la CENCO a été désignée comme médiateur dans les négociations qui ont apporté beaucoup d'espoir et qui ont accouché d'un accord que nous considérons comme la seule feuille de route consensuelle qui vaille la peine d'être respectée pour le moment. Et donc, c'est à ce double titre, en tant que pasteur et en tant que Congolais, que les évêques se sont exprimés. Et ce message, c'est un message d'interpellation, mais une interpellation qui intervient dans un contexte d'une souffrance grave qui se vit au sein de notre peuple. Alors, c'est donc dans ce sens, donc il n'est pas question de colère ou bien de coup de gueule, mais non, c'est l'exercice habituel de notre mission prophétique.
Au point 3 de votre déclaration, en parlant du processus politique, vous dites, je cite, les évêques disent, nous constatons qu'il n'y a pas d'avancée significative. L'imbroglio politique et la souffrance de la population qui en résulte dépassent le seuil du tolérable. Nous sommes profondément déçus de nous retrouver dans le même contexte de tension qu'à la fin de l'année 2016. Vous dites qu'il n'y a pas d'avancée significative alors qu'ont été nommés un premier ministre issu de l'opposition, un président du Sénat. Ça, il y a même un calendrier électoral qui a été publié.
Évidemment, les évêques ont d'abord procédé à l'évaluation de l'accord. Parce que pour le moment, je pense que c'est l'instrument juridique, en dehors bien sûr de la Constitution, qui donne des garanties que nous pouvons aller de l'avant dans le sens de la démocratie. Alors, à propos de cet accord, nous avons constaté effectivement qu'il a été victime de plusieurs entorses et de manière délibérée, et c'est ce qui explique notre déception. Et nous constatons également que ce qui a été réalisé pour le moment est minime par rapport aux attentes de la population, par rapport aux attentes même de la communauté internationale. Donc il suffit d'être honnête pour reconnaître qu'on a pris des raccourcis, mais ces raccourcis n'ont fait qu'amplifier la crise.
Alors, au point 8, en vous adressant au président de la République, vous dites, je cite, « Considérant votre charge de garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République, nous vous exhortons à rassurer l'opinion par une déclaration publique que vous ne serez pas candidat à votre propre succession. » Fin de citation. Monseigneur Fulgence Muteba, il y a plusieurs auditeurs qui nous ont écrit et qui pensent que ce n'est pas la première fois que la CENCO fait cet appel au président de la République. La communauté internationale est passée par là, sans que rien ne soit fait. Pensez-vous avoir été entendu?
Oui, justement, c'est ça qui explique notre déception. Parce que non seulement que nous l'avons dit au président de la République de vive voix, et il nous avait écouté religieusement, et nous pensions qu'il allait se ressaisir pour le faire, mais nous constatons en même temps que c'est un point qui constitue, n'est-ce pas, un motif de scepticisme, de suspicion, et qui mérite qu'il puisse prendre son courage en main et qu'il fasse cette déclaration, et ça va, nous pensons, décrisper la situation et ça va rassurer les uns et les autres.
Comme je le disais, il y a Venance Amissi Malonga qui nous écrit de Pugna au Maniema qui dit « Je pense que la déclaration des évêques présente beaucoup de réserves quant aux réalités politiques de la RDC. Ce genre de déclaration où on exige au président de proclamer publiquement n'est pas une nouveauté, mais tous sont en vain car exclus du cadre légal et n'est ni conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre, moins encore à la Constitution. Les prélats ont raté de plus l'occasion de mettre les points sur les i. En disant la vérité, il se contente de faire une déclaration stéréotypée et sans effet aux limites perceptibles. »
Je respecte son point de vue, mais nous avons aussi d'autres témoignages qui attestent que nous avons mis le doigt dans la plaie et que les points qui constituent l'exhortation des évêques sont véritablement des points qui sont en jeu pour que notre pays puisse sortir de la crise. Donc c'est un point de vue que je respecte. Nous avons beaucoup d'autres témoignages objectifs et que je respecte qui vont dans le sens contraire.
Au point, c'est Monseigneur Fulgence Muteba, en vous adressant au peuple congolais, vous dites « Prenons conscience que nous, peuple congolais, sommes le souverain primaire et qu'il n'y aura pas de changement sans l'implication de chacun de nous. Ce changement passe par quoi, selon vous ?»
Ce changement passe par la mobilisation de notre peuple. Et notre peuple peut décider d'exprimer sa désapprobation par rapport à tel ou tel autre point, mais il faut qu'on puisse le faire dans le respect de la Constitution et sans violence. Nous pensons effectivement qu'il faut que nous puissions rappeler à notre peuple qu'il est le souverain primaire, qu'il est l'acteur primordial dans cette crise, dans la mesure où il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont la tête tournée ailleurs et qui pensent que ce sont des étrangers qui vont résoudre nos problèmes. Alors nous avons voulu responsabiliser notre peuple, le mobiliser, le conscientiser et le sensibiliser de telle manière qu'il puisse prendre ses responsabilités pour que notre pays puisse sortir de ce bourbier.
Il y a Delphin Mukala, plutôt David Loyoko qui nous écrit de Kinshasa qui dit « J'apprécie bien les résolutions de la CENCO, mais elles ne seront pas prises en compte ni par le Parlement, dont la majorité présidentielle est majoritaire, moins encore par le président Joseph Kabila lui-même. Où en sommes-nous avec le fameux plan B prôné par les évêques ?»
Bien, je dois d'abord dire que si les institutions qui ont été citées par notre compatriote ne respectent pas leurs engagements, il en va de leur crédibilité. C'est au peuple de juger si ce sont des gens qui méritent d'être là où ils sont. Les évêques, vous savez, ils n'ont pas d'objectif politique. Nous ne sommes pas en compétition politique. Mais tout ce que nous disons, c'est pour le bien-être de notre population. Quant au plan B, on vous l'a dit plusieurs fois, c'est un plan qui reste secret jusqu'à ce qui va se déployer. Nous ne nous contredisons pas sur la place publique, Mais nous voulons que les uns et les autres puissent assumer leurs responsabilités pour le bien-être de notre population.
Merci, Monseigneur Fulgence Muteba. Monsieur André Alain Atundu, vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle. Comment vous, vous avez reçu ce communiqué, cette déclaration de la CENCO?
J'ai lu ce communiqué sans surprise, évidemment. C'est un air déjà entendu et cela prête un peu à confusion. Les évêques sèment une confusion entre leur mission évangélique, qui est d'implanter, de prêcher l'amour de Dieu et d'implanter les valeurs qui font la force de la foi catholique, et leur rôle social, qui est de mettre en œuvre, disons, de faire de bonnes œuvres. N'est-ce pas? Le rôle des évêques n'est pas
terminé. Le calendrier électoral, leur rôle, c'est de rappeler que en toute chose triomphe et triomphera l'amour de Dieu. Qu'en toute chose, il faut faire recours aux valeurs chrétiennes d'amour, de tolérance, de respect de l'autorité établie. Alors, quant à dire s'il faut voter une fois, deux fois, par tel système ou tel autre, c'est ne pas de leur mission première. Ils peuvent, en tant que citoyens, donner leur point de vue dans le cadre de la société civile, mais sans plus de prétention. Maintenant, les évêques font des déclarations ex cathedra. Il ne s'agit pas d'un problème de foi qui s'impose, parce que toute proposition est discutable. Je crois qu'ils en ont eu l'expérience lorsque les négociations étaient menées au centre interdiocésain.
Alors, est-ce que les évêques n'ont pas raison quand ils demandent au président Kabila de déclarer qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle pour décrisper le climat politique?
Eh bien, sauf respect que je dois à nos pères les évêques, je dois rappeler que le président de la République s'est exprimé plus d'une fois sur cette question et une fois solennellement devant le Congrès. Je pourrais même rappeler de mémoire ce passage où il disait que la Constitution sera respectée en ce qui le concerne, et quant à ceux qui se soucient jour et nuit de son sort, eh bien, son sort est réglé par la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution dit que le président, en fonction, au regard de la Constitution actuelle, ne peut pas effectuer plus de demandes. Or, jusqu'à présent, je ne vois aucune initiative du président Kabila de nature à faire croire qu'il aurait un troisième mandat. Donc, je pense que c'est une confusion inutile, et qui laisse certains penser qu'il y a d'autres intentions que de rechercher la vérité dans cette déclaration.
Mais qu'est-ce que ça dérangerait s'il le disait?
Eh bien, qu'est-ce que ça dérangerait si on demandait aux évêques de s'occuper un peu plus de nos paroisses, où il y a tant de problèmes?
Dont vous êtes fidèle.
La crise des vocations. C'est un problème. La situation des abbés, c'est un problème. L'indifférence des chrétiens dans le fonctionnement des paroisses, c'est un problème. Dans les CVB, quel est le sort des CVB? Nous sommes un état de droit. Nous fonctionnons d'après le droit. Mais en plus, nous sommes un état laïque, où le pouvoir spirituel appartient aux évêques et le pouvoir temporel d'organiser l'état appartient à l'État. Et comme l'a dit Jésus, eh bien, laissons à César ce qui est en César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
Alors, il y a Évariste Lichiza qui dit « Je suis d'accord avec la CENCO, d'autant plus que la dernière déclaration de M. Kabila devant le Congrès, la déclaration à laquelle vous avez fait allusion, M. Atundu, je cite, dit-il, « Quant à ceux qui spéculent matin et soir sur mon avenir de savoir que la Constitution a déjà tranché, ne reflète plus rien de sincère aujourd'hui où l'on assiste au chapelet de bonnes intentions alors que rien de concret s'ensuit. Les élections, oui, mais qui est le dauphin du chef de l'État lorsqu'il est clair qu'il ne doit plus s'y représenter ? »
Est-ce que c'est un problème constitutionnel ? Nous sommes une république. Et dans une république, il n'y a pas de dauphin. Le dauphin, c'est la royauté, c'est l'empire. Nous sommes une république, il n'y a pas de dauphin. Et en matière de dauphin, puisqu'on y est, je voudrais rappeler que pendant 20 ans au moins, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, M. Philippe Piassé, était le dauphin du président Houphouët-Boigny. Eh bien, au moment des échéances, c'est pas lui qui est passé. Donc, la question
La question
du dauphinat ne répond pas à l'aspiration profonde du peuple congolais à la paix et aux élections apaisées. Qu'est-ce que les évêques peuvent faire pour tranquilliser le peuple, pour contribuer, accompagner le chef de l'État dans sa mission de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions?
Alors, les évêques notent qu'il n'y a pas d'avancée significative dans le processus politique, partant notamment de la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Toute cette année, le président s'est engagé et a réalisé une mise en œuvre intégrale de l'accord. D'abord, par la désignation d'un premier ministre, la formation du gouvernement. Ensuite, par la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord. Ensuite, par la publication du calendrier électoral. De tous les Congolais, je suis tenté de dire que le président Kabila est le seul qui a donné les preuves de son engagement quant au processus électoral. Les autres ne font que des spéculations. Puisqu'on y est, qu'est-ce qui est important pour le peuple congolais ? L'alternance qui est garantie par la Constitution ou le projet de société que les différents prétendants ne présentent pas ?
Merci, M. Atundu. Professeur Félicien Kabamba, comment vous analysez cette déclaration de la CENCO?
Il faut d'abord reconnaître que la CENCO a fait cette annonce à un moment particulier. Ce moment, c'est lequel? On est pratiquement à quelques jours, sinon à 2-3 semaines, de la fin du mandat du chef de l'État, si on se réfère à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, face aux incertitudes que présente cette deuxième fin de mandat, eh bien, il y a une responsabilité qu'ils ont prise, qui est celle d'interpeller en particulier le chef de l'État, comme garant de la nation, sur la nécessité pour lui de prendre un certain nombre d'initiatives, parmi lesquelles l'initiative consistant à déclarer qui ne va plus se représenter. Mais il faut aussi situer cette annonce dans le rôle actif que joue la CENCO dans l'évolution politique actuelle. Quand vous regardez le rôle qu'il a joué pendant les négociations, médiateur, et voilà. Donc vous avez là un rôle très actif qui n'est pas le rôle d'observateur auquel notre interlocuteur vient de se référer, oui. Mais la CENCO veut jouer un rôle actif. Et la CENCO a l'habitude de faire une évaluation de la situation, une analyse de la situation. Et par rapport à l'analyse, il propose un certain nombre de recommandations et je crois que c'est ce qu'ils ont fait pour le moment. Alors,
Professeur, en parlant de ce rôle actif que joue la CENCO, jusqu'où les évêques peuvent-ils aller au moment où il y a une bonne frange des Congolais qui estiment que les évêques ont abandonné le processus politique en cours avec notamment l'accord de la Saint-Sylvestre?
Alors, où est-ce qu'ils peuvent aller? Suivez très bien ce qu'ils déclarent. Ils demandent au peuple de prendre ses responsabilités en main. Mais prendre ses responsabilités, c'est dire qu'ils veulent que le peuple comprennent dans quelle direction le pays est en train de partir et qu'il qu'ils prennent, si vous voulez, des initiatives en termes de revendications et des revendications politiques. Parce qu'en fait, la crise politique, ce que je vais dire, c'est que quand le pays berce dans la crise politique, cette crise a des répercussions sur les autres secteurs de la vie nationale, sur l'économie, sur le social, sur l'éducatif. Et d'ailleurs, quand vous regardez, depuis que l'on a parlé de cette affaire de la non-organisation des élections, donc, qui a plongé le pays dans la crise, vous rendez bien compte que le secteur économique en a beaucoup souffert. Tant il est vrai que beaucoup d'observateurs remarquent que pendant ces temps où il y a une certaine incertitude, eh bien, ceux qui gagnent un peu plus d'argent prennent cet argent et l'expatrient à l'extérieur du pays. Et donc, vous avez là toute une série de facteurs qui montrent bien que le pays ne va pas dans la bonne direction. Et donc, ils ont compris qu'il était de leur devoir de prendre position, d'interpeller les uns les autres sur la nécessité de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les élections.
Professeur, le pays ne va pas dans la bonne direction. Les évêques estiment qu'il n'y a pas suffisamment de progrès, il n'y a pas d'avancée significative dans le processus politique au moment où la majorité présidentielle estime que ça va très bien. Pourquoi ils devraient s'en inquiéter?
Ils s'en inquiètent parce que vous devez savoir qu'en fait, Cicéron disait que celui qui obéit devra avoir espoir qu'un jour il commandera. Et celui qui commande devrait se dire que dans un bras de lait, je devrais obéir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça pose le problème de la rotation. Ça pose le problème de l'alternance. Et à partir du moment où ces principes qui devaient gouverner la République, parce qu'ici on dit qu'on est bien une République, eh bien, à partir du moment où ce principe qui gouverne la République ne sont pas, si vous voulez, bien expérimentés, ne sont pas mis en œuvre, eh bien, ça déclenche cette crise. Et il faut trouver une solution à la crise. Plusieurs scénarios peuvent être proposés. La majorité a son scénario, l'opposition aussi. Mais il y a également les observateurs qui regardent et qui disent, nous n'allons pas dans la bonne direction. La bonne direction, c'est l'organisation des élections dans un temps assez court, étant donné que nous avions déjà perdu beaucoup de temps. Et vous devez savoir qu'en fait, que si l'on doit accepter le principe que le pouvoir émane du peuple, ça veut dire que le peuple ne... En fait, ceux qui détiennent ce pouvoir ne les détiennent que par délégation et pour un mandat très temporaire. Et la durée de ce mandat doit être respectée. Et nous sommes dans un cas où la durée du mandat n'est pas respectée et ce qui... aussi bien au niveau de la population qu'au niveau, si vous voulez, de l'élite, enclenche une certaine incertitude et un désarroi.
Il y a votre collègue, le professeur Ignace Ndala, qui nous écrit de Kolwezi, qui dit « La SENCO, dont les travaux pilotés en 2016 ont jusqu'à ce jour été balayés, va-t-elle cette fois-ci se faire entendre par ceux qui, après l'avoir invitée, l'ont humiliée en la renvoyant poliment? Du reste, le débat sur la déclaration attendue du président peut ne pas sortir pour plus de raisons stratégiques que pour l'équilibre de sa famille politique d'une ruse. »
Bon, disons que tout le chacun a son point de vue à exprimer là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la déclaration que ferait le chef de l'État sur son avenir politique, c'est-à-dire une déclaration dans le sens qu'il ne se représenterait pas, une telle déclaration aurait comme fonction de faire retomber la tension, de décrisper la situation politique. Et donc, on est à la fin de l'année. Si une telle déclaration était faite demain, je dois vous garantir, je dois vous rassurer, qu'elle ferait énormément baisser la tension. Mais tant que les uns et les autres n'ont pas une bonne perception des intentions du chef de l'État, de la majorité présidentielle en particulier, et que le schéma politique n'est pas clair, il y a là, véritablement, plusieurs inquiétudes que les uns et les autres expriment quant à l'avenir politique du pays.
Merci, professeur. Monseigneur Fulgence Moutéba, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Je suis à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Les peuples congolais s'attendaient moins à une telle déclaration de la part de la CENCO, après le torpillage de l'accord de la fin sud-ouest, après le torpillage par la majorité présidentielle de l'envoi particulier, après tout ces injures proférées à la CENCO depuis la fin catastrophique du dialogue, bref, devant tout ce stratagème du pouvoir actuel, de se maintenir à tout prix aux commandes du pays, à mon discours que celui-là. C'est vraiment une déception totale, une désolation.
Monseigneur Fulgence Muteba, j'ajoute cette réaction de Jean Mukendi qui nous écrit du Kasaï central dans la ville de Kananga qui dit « Je pense à mon avis que la SENCO continue à distraire la communauté congolaise par ses déclarations qui contribuent à maintenir le président Kabila au pouvoir. »
Bah, écoutez, là, je commence par le dernier interlocuteur. Là. Bah, je ne sais pas de quelle manière nous maintenons le président Kabila au pouvoir. Mais tout à l'heure, vous avez entendu les incantations de l'ambassadeur à Tundu, que c'est pas la première fois que je les entends, et il y a d'autres acteurs de la majorité qui disent la même chose, et qui s'octroient, n'est-ce pas, le devoir de définir la mission de l'Église dans le monde et en particulier dans ce pays. Je pense que il faut être humble sur ce point, je crois que c'est à nous à pouvoir éclairer l'opinion. Nous avons une mission prophétique, nous avons une responsabilité, je dirais presque que c'est une responsabilité historique. C'est le contexte dans lequel nous vivons qui nous pousse à aller si loin. Par ailleurs, nous sommes tributaires d'une tradition que Jésus-Christ lui-même a inaugurée. Dites-moi, quand le Christ a qualifié Hérode de renard, est-ce qu'il avait fait de la politique ou bien il enseignait la religion? Quand il a chassé les vendeurs du temple, est-ce que c'était un geste religieux ou un geste politique? Alors, bref, sur cette question de la mission de l'Église, je pense que les uns et les autres devraient plutôt se faire instruire. Ceci dit, je voudrais dire à notre ami de Bukavu que si nous revenons sur des fondamentaux de l'accord, c'est parce que pour nous et pour beaucoup de gens raisonnables, c'est le chemin qu'il faut emprunter. Le pays ne fait que s'enfoncer dans la crise. Le pays est dans l'impasse et il faut au moins en sortir. Et ce que les évêques ont dit, c'est juste rappeler avec force ce qui doit être fait. Si on choisit un autre chemin, je peux vous assurer que ce sera une catastrophe. Je tiens à préciser que nous avons demandé au président de la République, bien sûr, de faire une déclaration comme quoi il ne va pas briguer un troisième mandat. Mais nous avons dit également qu'il faut qu'il s'implique à fond pour que on puisse appliquer les mesures de décrispation politique. Pardon. En tout cas, jusqu'à présent, les 7 personnalités emblématiques qui ont été retenues par l'accord n'ont pas encore recouvré leur liberté. À ce propos, je voudrais inviter justement ceux qui animent les institutions de la République à voir ce qui s'est passé ailleurs. Le président Ouattara, il est aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas intenté comme procès contre lui? Le président Alpha Condé, qui est président, n'est-ce pas, de l'Union africaine, il était jusqu'en prison. Si nous voulons aller plus loin, il est important que nous puissions nous engager à appliquer ces mesures de décrispation politique. Pour nous, c'est un gage des élections à peser. C'est très important à retenir.
Monseigneur Fulgence Muteba, nous avons reçu plusieurs réactions des auditeurs, des internautes qui affirment que la SENCO a joué au Ponce Pilate en laissant à l'instar du Christ flageller et crucifier l'accord de la Saint-Sylvestre.
Non, c'est pas vrai. Écoutez, tout d'abord, nous n'étions que des médiateurs. Nous avons essayé de rapprocher les uns et les autres, d'obtenir le plus grand consensus possible. Et je pense d'ailleurs que pour le reste de notre histoire, du moins jusqu'à la fin de l'année, ce sera très difficile justement de pouvoir obtenir ce consensus. Vous savez, pour appliquer un accord, il faut avoir la volonté politique. Il faut être de bonne foi. Et c'est ça qui a manqué. La responsabilité de la SENCO là-dedans, où est-ce qu'elle est? Je pense que les gens abusent de notre bonne foi quand ils nous traitent de cette manière. S'il y a eu des avancées dans le sens de l'apaisement en décembre dernier, je pense que c'est parce que nous sommes intervenus, nous, en tant qu'évêques.
Et c'est ce que vous avez encore l'intention de faire maintenant?
Oh non, écoutez, là, c'est pour nous demandons qu'on aille aux élections. Et il y a des passages très importants de ce message qui ont été éludés par beaucoup de médias. nous avons dit, écoutez, si nous engageons des discussions sur le calendrier, nous risquons de perdre des mois. Nous connaissons notre classe politique. C'est pourquoi nous sommes dit, il faut qu'on aille à l'essentiel, c'est-à-dire aux élections, mais à condition d'appliquer les mesures qui ont été prises, d'appliquer les clauses de l'accord, et de cette manière, nous pouvons nous en sortir. Mais si on continue à s'entêter tel que j'entends certains acteurs le dire,
merci.
Je pense que nous allons regretter ce temps perdu.
Merci, Monseigneur Fulgence Muteba. Monsieur André Alain Atundu, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est M. Tony Payé, depuis Kinshasa. Ce qu'il faudrait comprendre est que le président Kabila n'a pas la volonté politique de quitter le pouvoir. Car s'il avait cette intention, comme prétend son entourage, il aurait déjà dû faire cette déclaration depuis longtemps, du fait que ce serait une meilleure manière de décrisper le climat politique en RDC. Et la majorité serait déjà dans la préparation de présenter un dauphin du président Kabila. À presque une année des élections, il faudrait une pression politique intense, une simple déclaration ne suffirait pas pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations.
J'ajoute cette réaction d'Alex Echo de Chicapa qui dit « La déclaration de la CENCO relève de la nécessité pour notre pays de devenir rapidement un pays normal où les hommes passent et les institutions restent, M. Atundu. »
Oui. À propos de la réaction du premier, qui dit que si le président avait fait la déclaration encore qu'il a faite, ce serait apaisant, ce serait une façon de préparer les élections. C'est son point de vue qui est contestable. Mais moi je sais que la majorité présidentielle, en installant sa centrale électorale, prépare mieux les élections. Que les préoccupations du dauphin. Parce que, de toutes les façons, à l'entrée de la campagne, tout le monde, tous les candidats doivent être connus. Je voudrais, si vous me permettez, peut-être signaler à l'évêque que la colère du Christ au temple est un acte religieux. Parce que les commerçants avaient profané la maison de Dieu. Et ce faisant, les chasser, c'était faire un acte religieux et pas un acte politique. Concernant les 7 personnalités emblématiques, Monseigneur sait très bien qu'en ce qui concerne certains, ils ont fait vraiment la politique de Ponce Pilate. Ils ont remis le dossier aux mains du président alors qu'ils avaient la charge de résoudre cette question. L'Église, c'est nous tous. C'est nous les chrétiens. Et l'Église a 2000 ans. Les chrétiens savent.
Et vous, les fidèles qui refusaient d'écouter leur père.
Non, les chrétiens savent. Qu'est-ce que c'est que la mission prophétique de l'Église? Ce n'est pas un concept qui est né au XXIe siècle. C'est un concept qui a plus de 2000 ans. Donc, soyons tous modestes, hein, chacun pour sa part. Nous savons que la mission prophétique de l'Église, fondamentalement, c'est annoncer la victoire de l'amour de Dieu en toutes choses.
Alors, ceci étant dit, M. Atundu, parmi les recommandations, les évêques demandent, par exemple, à la CENI de rassurer la population sur son indépendance et sa neutralité. Comment vous répondez à cette recommandation au moment où plusieurs observateurs dénoncent une relation incestueuse entre la majorité présidentielle et la CENI?
Ce sont, comme toujours, des déclarations non fondée, parce que la CENI mène une mission républicaine pour l'intérêt de la démocratie. Ainsi, il n'est pas étonnant que la CENI rencontre les acteurs de la majorité, les acteurs de l'opposition et même de la CINCO, comme dernièrement. Donc, ce sont ceux qui ont peur des élections qui voient qui ont peur même jusqu'à leur ombre. N'est-ce pas? La majorité présidentielle n'a aucune intention de tricher. La majorité présidentielle se prépare, n'est-ce pas, aux élections en installant ses centrales électorales, en gérant, en identifiant d'abord les ambitions des siens et en gérant ses ambitions de la meilleure façon au mieux des intérêts de notre famille politique. Et l'objectif de notre famille politique, je ne me sens pas coupable en se disant, c'est de conserver le pouvoir. Il n'y a pas de mystère. On ne peut pas s'organiser en famille politique et laisser le pouvoir à ceux qui n'ont pas le moyen de le conquérir démocratiquement. Nous sommes dans une compétition démocratique qui est toujours une épreuve de vérité, où les attentes des uns et des autres ne sont pas toujours confirmées par la population. Voilà pourquoi la majorité présidentielle prend au sérieux le processus électoral et s'y prépare de façon adéquate.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Batia Baliouno depuis Goma au Nord Kivu. À mon avis, je crois que la CENCO ne devrait plus demander au chef de l'État de se prononcer parce que même la communauté internationale, en passant par les États-Unis, l'avait fait et il ne s'est jamais prononcé. Je crois que le peuple avait fait confiance à la CENCO en acceptant qu'on puisse prolonger d'une année après les assises de la Saint-Sylvestre. Et c'est là pour ce que la calmie soit observée sur l'étendue de la République. Mais jusque-là, la volonté du chef de l'État n'est pas aussi visible dans l'opinion politique. La CENCO devrait laisser le chef de l'État pour que la population puisse avoir l'assurance des élections. Comme le 31 décembre va dépasser, nous croyons que même le calendrier ne sera pas respecté.
Professeur, est-ce que vous comprenez cette frustration?
Oui, mais en fait, il faudra inscrire l'annonce de la CENCO dans l'optique d'une pression politique. Le rôle de l'Église catholique, de la CENCO, n'est pas seulement évangélique, mais l'Église doit aussi libérer le peuple de l'ignorance, libérer le peuple de la pauvreté. Et donc, il y a là toute une mission de l'Église qu'il faudra comprendre et non pas seulement se limiter au niveau de l'Évangile. Et donc, c'est par rapport à cette mission de libération des nations par l'Église que l'Église catholique a pris ses responsabilités de dire oui, nous ne cesserons jamais nous fatiguer de rappeler au chef de l'État qu'il faudra un jour, qu'il faudra absolument aujourd'hui qu'il dise, eh bien, moi, je ne serai plus candidat. De toutes les façons, il y aura des élections, mais sans moi. Et cette manière d'annoncer cela pourra avoir un impact sérieux sur la décrispation politique.
Professeur, la CENCO recommande au gouvernement de publier de préférence avant la fin de l'année 2017 le plan de décaissement des fonds destinés à la CENI. En toute transparence, cela pourrait-il aider à clarifier le processus?
Oui, cela va permettre d'avancer parce que vous savez que l'un des problèmes du processus électoral, c'est le financement. Et que si par le passé, il y a eu des raisons d'ordre technique, en particulier les fichiers électoraux qui a retardé les élections, demain, ça sera une autre cause. Et probablement le financement. Et donc, par rapport à ça, il faudra anticiper. Et c'est ce que tente de faire aujourd'hui, à mon avis, la CENCO. Elle anticipe déjà sur les prochaines difficultés du processus et dire, voilà, si hier on n'a pas organisé les élections parce qu'il n'y avait pas de fichiers, parce qu'il n'y avait pas ceci, cela, demain, ça pourrait être le financement. Et par rapport à ça, il faut que le gouvernement nous donne déjà une planification assez sérieuse. Et je crois que c'est à mon avis, c'est une très bonne initiative.
Au point 15, professeur, de la déclaration des évêques, pratiquement dans la conclusion, ils disent, la CENCO tient à rappeler à tous les acteurs politiques et au peuple congolais tout entier que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas mort, il est et demeure l'unique feuille de route consensuelle pour sortir de cette crise politique qui n'a que trop duré. Professeur, après le 31 décembre 2017, que deviendra cet accord?
Cette question, on la pose tous. Que devient l'accord après le 31 décembre? Bien sûr, il y a une interprétation de l'accord qui est faite par les uns et les autres. Ils disent, voilà, il y a une incise qui s'est trouvée dans l'accord et qui a été exploitée d'ailleurs par les institutions. L'incise prévoyait qu'en cas de difficulté de la mise en œuvre du calendrier, eh bien, la CENI et le CINSA et autres vont se rencontrer pour pouvoir décanter. Et je crois que c'est l'exploitation de cette incise qui pourra, si vous voulez, redonner à l'accord sa justification. Parce qu'en fait, tous les gens vont continuer à se référer à l'accord, même si le délai prévu par l'accord n'a pas été respecté. Et de mon point de vue, l'accord de la Saint-Sylvestre est mis à prix de preuve parce que cet accord prévoyait beaucoup de bonnes choses. S'il était appliqué à bon escient, on ne serait pas dans la crise. Mais aujourd'hui, l'accord a éprouvé beaucoup de difficultés et voilà là où on en est aujourd'hui.
Sommes-nous, professeur, dans une logique du chien qui aboie et de la caravane qui passe?
Bon, alors il faut aussi situer le problème au niveau de l'équilibre de force entre la majorité au pouvoir, qui a pratiquement l'intégralité de forces. Donc, la balance penche plus du côté de la majorité que du côté d'autres forces politiques qui tentent de s'organiser pour ne pas être du reste. Et là, je parle en particulier de l'opposition, de la société civile. Et quand vous regardez aujourd'hui, l'espace politique est un espace politique assez difficile à voir les autres forces émerger. Et c'est ainsi que vous voyez qu'il y a grande difficulté pour les autres forces politiques à s'exprimer, notamment avec l'interdiction de manifestations qui est annoncée dans pratiquement toutes les villes du pays.
Monseigneur Fulgence Moteba, nous allons déjà conclure. L'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas mort, dites-vous, dans la conclusion, au 31 décembre 2017. Après cette date, que deviendra cet accord, Monseigneur?
Comme nous l'avons dit, cet accord n'est pas mort. Dans ce sens que cet esprit de consensus, cet esprit d'entente entre les Congolais que nous avons voulu instaurer pour que notre pays puisse avancer, on ne peut pas le tuer. Il est important qu'on puisse revenir aux fondamentaux de cet accord pour que nous puissions avancer. Je remercie le professeur Bob Kabamba pour la justesse de ses analyses, notamment sur la mission de l'Église. Je pense que l'ambassadeur Atundu est fort instruit. J'aimerais qu'on puisse comprendre les évêques. Donc,
en guise de conclusion?
En conclusion, c'est qu'on puisse revenir aux fondamentaux de cet accord, qu'on puisse décrisper la situation politique pour que nous puissions aller aux élections sans exclusion.
Merci, Monsieur Atundu. En guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique?
En guise de conclusion, pour moi, la crise politique au Congo a une dimension spirituelle que les évêques se doivent de prendre en compte pour offrir une perspective.
Qu'on ne tombe pas dans la métaphysique à ce moment-là.
Non, lorsque un acteur important surprend la bonne foi des autorités judiciaires en disant qu'il est malade et que sur ce cas-là, rien n'a été signalé de la part de qui que ce soit, on peut se poser la question. Je crois que la CENCO ferait œuvre utile en menant plutôt une campagne de réarmement moral du peuple congolais autour des valeurs chrétiennes universellement acceptées d'amour, de tolérance et de respect de l'autorité établie. Et enfin, il faut savoir que la théologie de la libération a montré ses limites, celle de la démocratisation aussi probablement.
Professeur Félicien Kabamba, conclusion.
Aristote disait que chaque citoyen devrait être tour à tour gouvernant et gouverné. Et donc il faut donner aux citoyens congolais la possibilité à la fois d'être gouvernant, mais aussi gouvernant.
Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.